Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Expositions, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio FM+. Merci de votre fidélité pour ce 10-10 qui aujourd'hui nous permet de recevoir Régine Monod. Régine, bonjour.
Bonjour.
Alors Régine, je suis très heureuse de vous recevoir parce que vous allez nous faire voyager dans des époques très différentes, ça c'est le temps, et dans des endroits très différents puisqu'on va partir de la Chine pour arriver à Montpellier. Donc le périple est long, tout ça au travers de la vie d'une femme, Colette Richarme. Et donc Colette Richarme qui a vécu longtemps à Montpellier mais qui est aussi passée par Paris et qui est née en Chine et qui est une artiste, j'allais dire, à la fois connue et méconnue. Et j'allais dire 2026, c'est l'année Colette Richarme où ça ne sera pas. Régine, donc on part de Chine.
On part de Chine, oui.
Colette, si vous le voulez bien.
Colette est née en Chine. Elle a passé ses 9 premières années en Chine. Son papa était soyeux lyonnais, c'est-à-dire qu'il était dans le commerce de la soie et il vivait à Canton, donc de 1880 et quelques à 1913.
Donc ça, elle naît là-bas parce que bon, elle a été conçue là-bas, elle n'a jamais connu la France avant. Et ces 9 premières années qui sont souvent dans l'enfance, des années assez essentielles, ce sont des années où on s'imprègne vraiment des choses, se passent dans un pays donc très loin de la France. Elle va revenir en France après, on va voir comment elle se réadapte ou comment elle s'adapte. Mais déjà à cette époque-là, elle vit quand même une vie, j'allais dire, non pas de luxe, mais très ouverte, relativement aisée, avec des voyages, des allers-retours, parce qu'elle vient de temps en temps en France. Et puis une maman qui l'ouvre sur l'art, qui n'est pas du tout opposée à lui montrer des choses comme ça, à lui faire découvrir l'art.
Effectivement, Colette, dans ses premières années, vit dans un milieu très luxueux. La concession anglaise à Canton était vraiment un lieu où elle vivait au milieu de tentures merveilleuses, dont on peut voir d'ailleurs une en ce moment au musée Guimet Plus. Sa mère, qui avait fait les Beaux-Arts de Genève, lui met un crayon dans les mains très tôt. Et effectivement, elle va commencer à dessiner dès l'âge de 5-6 ans. On peut noter des petites esquisses.
Et puis, les esquisses dont il reste des traces.
Dont il reste des traces qui sont dans le carnet de dessins de sa mère. On a trouvé des dessins de fleurs, effectivement, qui sont
incroyables.
Qu'on a inscrits dans la biographie illustrée que nous avons proposée à l'Espace Rio, d'ailleurs, qui permettent de voir le.
Alors, je fais une petite aparté. Est-ce qu'on connaît les œuvres de sa mère?
On connaît. Déjà un très beau portrait qui est à l'atelier Richarme. Et puis, on a beaucoup de gouaches qu'elle faisait au bord de la rivière des Perles. Et d'ailleurs, les chercheurs chinois qui travaillent sur le patrimoine sont intéressés parce que ça documente une région qui a été complètement démolie par l'industrialisation. Et donc, certaines de ces gouaches vont être exposées en Chine.
Donc, une maman qui pratique elle-même les arts, dont on a, donc vous venez de le dire, quelques éléments, dont certains sont importants pour la Chine, une petite fille qui s'initie très tôt et un papa qui meurt quand elle est jeune mais qui lui laisse quelque chose d'assez exceptionnel et qui est génétique pour le coup.
En effet, les soyeux lyonnais étaient recrutés sur leur capacité à distinguer beaucoup plus, très exactement 1 million de fois plus que le commun des mortels, parce qu'ils possèdent un 4e gène sur le chromosome X qui permet en fait de voir beaucoup plus, de différencier beaucoup plus de couleurs. Et comme le chromosome X est passé à sa petite fille, Richarme, en a hérité. Et ça se traduit dans ses tableaux. Les nuances colorées sont absolument extraordinaires, mais dans les textes aussi. Richarme avait une plume. Et quand elle décrit un tableau, elle est capable de trouver peut-être une vingtaine ou une trentaine de termes différents pour les bleus ou pour les verts ou pour les nuances vraiment extrêmement fines.
J'allais dire, ça tombe bien parce que elle va devenir l'artiste la peintre que l'on connaît, dessinatrice aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Comment vous l'avez découverte? Parce que donc vous êtes présidente de l'association Richarme, dont vous auriez aimé que ce soit une fondation, enfin c'est une association. L'histoire c'est quand même de perpétrer la mémoire de Colette Richarme. Comment vous l'avez découverte? Comment vous êtes intéressée à elle? Comment elle est venue dans votre vie?
En fait, Richard m'est entré dans ma vie quand j'étais étudiante. Sa fille, Michèle Boisseau, était secrétaire du laboratoire de parasitologie où j'ai fait ma thèse. Et très régulièrement, nous allions, mon mari et moi, qui était algérien, nous allions prendre le thé à Psalmody, parce que Richard et sa fille avaient l'habitude de recevoir des étudiants venant du monde entier.
C'est ça l'ouverture aussi.
Du thé. C'est une ouverture exceptionnelle.
Que nous allions voyager, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'elle naît à l'étranger, elle revient ici, mais elle est toujours en contact. Elle a une sorte de regard un peu international sur la vie et les choses sur le siècle.
Des amis au Liban, en Iran, au Japon, l'écrivain qui a eu un grand prix l'an dernier, Akira Mitsubayashi, a fait sa fête de mariage chez Richard parce qu'il a, voilà, il a connu sa femme à l'université Paul Valéry.
Oui, c'est ça.
Et donc, ils ont fait, voilà, il était très lié avec Richard maintenant.
Alors, les bureaux de l'association, d'ailleurs, Richard, sont à Psalmody, donc qui est une maison qui a appartenu à Colette Richard, qui maintenant a été donnée, je crois, à son décès.
Elle a été léguée par les filles à une association montpelliéraine qui s'occupe d'handicapés, l'ADAGE.
Donc deux filles de Colette Richard.
Qui nous héberge gracieusement pour que nous puissions continuer le travail sur l'œuvre.
Je vais croiser les doigts pourvu que ça dure. Mais avant ça c'est une période qui jusqu'à sa mort. Elle meurt là, en fait, à Psalmody.
Elle meurt en 91.
Mais moi, j'ai un petit tableau de Richard qui représente un autre endroit où elle a vécu, la Vignette, toujours sur la région de Montpellier.
Quand elle arrive en 1937 à Montpellier, elle est locataire d'un petit mazet du côté de l'Aiglongue et qui disparaît au moment où on construit l'UPV. Le théâtre de l'UPV porte le nom de la Vignette en souvenir de... Voilà. Et bientôt, la future crèche portera le nom de Colette Richard, de façon à inscrire véritablement son nom sur le campus.
Donc reconnaissance, j'allais dire, tardive dans l'Hérault, et de son œuvre, et de la personne qu'elle était, parce que c'était une femme extrêmement intéressante. Tardive, parce qu'il a fallu qu'elle soit reconnue à Paris d'abord, pour que les choses bougent un petit peu. En tout cas, c'est la reconnaissance parisienne qui fait qu'on connaît bien son nom, et c'est pas du tout ce qui s'est passé dans l'Hérault. On se retrouve dans quelques instants. Je vous propose tout de suite d'écouter un morceau de Khatchaturian. Alors, on le désannoncera après, on dira ce que c'est, mais ça va nous faire une petite pause musicale. Et tout de suite après, on va vous parler donc du travail de Colette Richard et de la personne qu'elle était. Retour à l'antenne, on va garder Khatchaturian juste sous nos voix, je trouve ça très agréable, avec Régine Monod. Régine, donc, vous êtes la présidente de l'association Colette Richard, dont on parle aujourd'hui, donc une femme peintre à l'antenne cet après-midi, et dans le 10-10 plus généralement. Je vous propose de parler justement du travail de Colette Richard, et avant de parler de ce travail, peut-être d'évoquer des grandes périodes de sa vie, parce que elle n'a pas eu une vie toute rose, Colette Richard. À chaque fois que vous en parlez, il y a des moments de bonheur, mais il y a quand même des grandes peines.
En fait, elle a traversé pratiquement tout le XXe siècle avec plusieurs drames. D'abord, la mort de son père qu'elle adorait en 1913, qui oblige Colette et sa maman à rentrer en Europe.
1913, ce n'est pas une bonne période.
À la veille de la Première Guerre mondiale, effectivement, qu'elle passe à Lyon avec sa mère, puis elle gagne la Savoie.
Famille d'origine, puisqu'on le rappelle,
c'est la famille paternelle.
Oui, son père était soyeux, donc Lyonnais, travaillait dans la soie, lyonnais. Oui.
Voilà. Ensuite, elle gagne la Savoie, qui était sa matrie, en quelque sorte, la patrie de sa mère. Et là, elle va poursuivre des études un peu trop raccourci, ce qui l'incitera à être une étudiante toute sa vie, en fait. Elle a toujours été frustrée de n'avoir pu pousser au bout ses études. Et à 80 ans encore, elle suivait les cours du professeur Agel à l'UPV parce qu'elle était toujours en demande d'apprentissage.
Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait comme étude ?
Certificat d'études.
Ah oui, d'accord.
Elle s'est arrêtée au certificat d'études.
D'accord. Il y a des raisons à ça ? Est-ce que c'était des raisons matérielles ?
Les périodes de guerre, de matériel, tout. Enfin, c'était très compliqué.
Parce que je suppose que, effectivement, tout ce qu'elle avait connu de luxe, ça a basculé à partir du moment où son papa est décédé.
Exactement. Et donc, en Savoie, elle fait partie d'un groupe de jeunes chasseurs alpins. C'est là qu'elle va rencontrer son mari, Jean. Il y a aussi Jean Moulin qui fait partie de ce groupe. Donc, ski en hiver, nage en été. C'était une personne très sportive. Et puis, elle se marie. Elle a trois enfants, dont la deuxième va mourir toute jeune. Deuxième drame. Puis sa maman, qui était sa meilleure amie, disparaît aussi.
Et son seul pilier, puisque
c'était son seul pilier qui lui restait. Donc, troisième drame. Et après, pour essayer de la sortir de ce marasme, son mari demande sa mutation à Annecy. Et puis ensuite, va finir ses études à Paris. Et ça va permettre à Richard d'apprendre enfin l'huile. Richard était une personne très exigeante. Avant, elle faisait des gouaches absolument merveilleuses que l'on peut voir sur le site des archives d'Annecy. Donc, elle maîtrisait parfaitement la gouache, mais elle ne voulait se mettre à l'huile qu'après avoir subi une véritable formation. Et donc, elle va entrer dans les ateliers de la Grande Chaumière.
Alors, la Grande Chaumière, je précise pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un très grand lieu où, effectivement, il y a des cours qui sont...
Plusieurs sortes de cours.
Et quand on parle, effectivement, du Paris du début du siècle dernier, on parle beaucoup de la Grande Chaumière parce que beaucoup d'artistes qui crevaient la dalle, entre nous soit dit, trouver un petit peu de chauffage, mais aussi les moyens de travailler à la Grande Chaumière, parce qu'il y avait des ateliers qui étaient ouverts. Voilà. Donc la Grande Chaumière, donc, par laquelle elle passe.
Et elle n'y reste qu'un an et demi, mais elle a décidé de passer 2 mois dans chacun des ateliers pour capter le maximum de choses avant d'être obligée de repartir de Paris. C'est là qu'elle fait aussi, d'ailleurs, la connaissance de Louise Bourgeois, qui était la massière dans l'atelier de Breyer, qui était un de ses maîtres.
Massière, ça veut dire qu'elle était chargée de l'organisation de l'atelier, de sa propreté, de sa mise en ordre, du chauffage et de son fonctionnement. Voilà. C'est ça. Le massier, c'est ça dans les ateliers.
C'est ça.
Enfin, c'était ça. Je sais pas, ça a peut-être changé encore.
Tout à fait. Et donc, en 37, son mari est muté à Montpellier, donc elle descend et elle arrive à Montpellier où elle restera jusqu'à la fin de ses jours.
Alors, j'allais dire, est-ce que c'est un enterrement de première classe ? Parce qu'en fait, elle connaît Paris. Paris commence à la connaître un petit peu.
Pas encore.
Mais donc, elle descend. Mais là, elle s'éloigne quand même de la capitale où elle aurait pu effectivement commencer déjà à...
Effectivement, mais bon, la vie a ses obligations. Mais elle va beaucoup aimer ce passage vers la couleur. Elle parle des gris parisiens et de la couleur de l'environnement, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Le sud leur a apporté la couleur.
Mais souvent ils font l'inverse, ils sont nés dans le sud, ils montent à Paris. Elle est à Paris, à portée de main, c'est à portée de main, et elle descend dans le sud.
Oui, mais obligée par les obligations familiales.
Et amoureuse. Oui, bon. Donc très bien, nous sommes à Montpellier. Et donc là, elle travaille, je suppose, toujours sa
peinture. Elle travaille en lien avec la Grande Chaumière, toujours, pendant un ou deux ans. Et puis, quatrième drame, la Deuxième Guerre mondiale. Son mari est fait prisonnier dès les premiers jours et restera prisonnier 5 ans. Donc elle se retrouve toute seule à Montpellier avec ses 2 petites filles. Mais elle va trouver une sorte de réconfort dans son travail. Elle va dessiner, elle va peindre énormément, elle va s'intéresser à Mallarmé, se plonger dans la poésie de Mallarmé et en faire des équivalences. Et c'est là qu'elle va commencer à exposer. En 1944, elle a déjà fait 2 expositions à Montpellier, 1941 et 1943, où elle avait eu une bonne reconnaissance. Et en 1944, elle dit, ça y est, je peux dire que je suis devenue peintre.
Alors on va voir ce qui lui arrive, parce que là, l'histoire n'est pas terminée. Mais on peut dire d'ores et déjà qu'il y a quand même des... Enfin, moi, quand je vois une... Je suis allée à la salle Rio, l'espace Rio, cette nouvelle galerie hein, qui se trouve rue Jacques Coeur. Donc j'ai interviewé Véronique Rio, qu'on va retrouver sur nos antennes régulièrement. Et là, vous aviez organisé chez elle une expo où on voit un certain nombre d'œuvres qui traversent la vie... de Colette Richarme, et j'allais dire, il y a vraiment des périodes qui sont assez bien définies. Par ailleurs, il y a des techniques qu'elle utilise aussi selon les périodes. Et moi, je dis quelque chose qui déplaît toujours aux gens quand je le dis. Je dis, moi, je trouve qu'elle a une peinture d'homme. Elle a par moments une peinture d'homme. Elle a une peinture, passez-moi l'expression, couillue, où il y a la patte, il y a la force, il y a l'excès, il y a la violence. Alors qu'elle est capable de faire des choses, des aquarelles, des choses très légères, très transparentes. C'est étonnant, ça.
En fait, les aquarelles, ce sont des gouaches aquarellées. Elle n'a pas fait d'aquarelles. Mais ces gouaches de terrain sont effectivement très légères, saisies sur le vif et très faciles à appréhender. Les gens adorent les gouaches voilà, de Richarme. Ça, c'est le travail sur le terrain. C'est un peu son appareil photographique. Après, c'est un peintre de chevalet. Et donc, elle va transposer ce qu'elle a vu sur le terrain à l'huile, en atelier. Et là, effectivement, dans une première période, la période où elle se cherche, elle va faire un peu de pointillisme, un peu de fauvisme, un peu de cubisme. Et la pâte est épaisse et charnue, effectivement. Et la critique parisienne ou autre a qualifié, effectivement, cette peinture parfois de masculine.
Ah ben, donc on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
On peut le ressentir comme ça. Alors ça, c'est sur... Alors moi, je vois ça, si vous voulez, effectivement, à l'épaisseur, au trait de pinceau qui se voit bien, etc.
Parfois de couteau.
Mais voilà, de couteau. Et c'est vrai qu'on est au bord, pour le coup, parce que c'est, quand on est dans... Quand on parle, par exemple, il y a un virage, vous allez nous l'expliquer, qui se situe avec la Bretagne. Mais on est là dans, effectivement, un peu de cubisme par certains moments, de pointillisme, c'est ce que vous faites. La Bretagne, c'est autre chose.
En fait, elle a la chance, bon, à partir de 1955, elle monte à Paris chaque année pour exposer son œuvre et elle voit une petite annonce où un propriétaire propose sa maison en Bretagne en échange d'un tableau par semaine. Elle accepte et elle part 15 jours en Bretagne. Elle va faire énormément de gouache sur le terrain et quand elle revient...
Ces fameuses gouaches.
Et quand elle revient, elle va prendre de l'encre et faire de très grands dessins absolument magnifiques où elle jette avec des gestes emportés à la manière chinoise. Elle jette sur le papier toutes les émotions qui l'ont traversée quand elle était en Bretagne. La brume, l'océan, les courbes, les... Ça va complètement modifier sa façon de peindre. À partir de la Bretagne, on va voir sa peinture s'orienter vers quelque chose de plus fluide, avec des couleurs plus douces. Vont apparaître ces fameux passages qui caractérisent son œuvre, où on peut aller d'une couleur extrêmement foncée à une couleur très claire par passages successifs. Et puis aussi les envolées. La construction faite de courbes, de diagonales, de droites, mais qui essaye de retranscrire le mouvement.
Est-ce qu'on peut parler d'une éclosion ?
Une métamorphose, je dirais. Une métamorphose, voilà.
C'est peut-être plus juste.
Et Richarme devient Richarme après la Bretagne.
Après la Bretagne. Et puis on parlera tout à l'heure, mais dans quelques instants, des palettes. Alors ça, c'est drôle parce qu'en fait... Une palette, c'est anodin, comme ça, mais ça raconte beaucoup de choses, et elle a su en tirer parti. On écoute tout de suite « J'ai deux amours », me semble-t-il, par... vous avez choisi la version la plus classique, il me semble, hein, c'est Joséphine Baker, tout simplement, parce que ça a été réinterprété depuis de nombreuses fois, parce qu'il y a un beau spectacle en ce moment à Paris sur Joséphine Baker. Mais là, c'est la version originale.
Ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Pays et Paris, parle toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris. Tout entier, le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris.
Voilà, c'était bien la version originale, nous sommes rassurés. Donc Régine Monod est avec moi aujourd'hui dans ce 10-10, vous le savez. Et on parle de Colette Richarme, vous êtes la présidente de l'association Colette Richarme. Alors on parle de Colette Richarme, je voudrais qu'on dise un petit mot rapide sur les palettes, parce qu'une palette c'est une palette, mais c'est pas que ça finalement.
Il y a palette et palette. Il y a la palette du peintre sur lesquelles sont les couleurs qu'elle va utiliser pour faire son tableau. Et les palettes de Richarme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand elle a fini un tableau, elle récupère la peinture sur sa palette classique et elle va le brosser sur des petits cartons. Au début, par souci d'économie et pour avoir un fond prêt à peindre. Et puis, elle s'aperçoit que ça donne des choses intéressantes au niveau coloré. Et elle va systématiser à partir des années 60-70 la démarche. Elle a toujours plusieurs petits cartons et elle dispose les couleurs de façon à créer des rythmes, des associations. Elle disait ces petits cartons sont le lieu de la conversation des couleurs. Et quand elle repartait sur un tableau dans les années 70-80, elle choisissait 2-3 palettes qui lui donnaient la clé de l'accord pour la toile à venir.
Vous savez que ça me fait penser un petit peu au carton des soyeux. Et les soyeux qui choisissent un certain nombre de couleurs par rapport à une tapisserie donnée ou un produit donné. Donc il faut que ce soit très précis. C'est une sorte de gamme chromatique, on va dire. Et il y a un petit côté comme ça.
Tout à fait, un côté
comme ça. Et c'est drôle puisqu'elle est quand même fille de soyeux. Donc c'est...
Tout à fait.
Bon, maintenant sur les palettes, nous avons compris, parce qu'effectivement certaines ont été exposées, alors l'exposition est terminée, mais on pourra toujours en retrouver.
Il y en aura aussi à la Galerie de l'Ancien Courrier le mois prochain.
Voilà, c'est ça, la Galerie de l'Ancien Courrier, le mois prochain, c'est-à-dire ce mois-ci, au mois de mars. Ouais,
13 mars,
ça,
oui.
C'est ça, 13 mars. On y est déjà, Régine, le temps passe vite. Et donc, on avait dit qu'on parlait dans la dernière partie de la reconnaissance de Richarme. Bon, elle est à Paris en 1955.
À partir de 1955, oui, chaque année, et en 1992, un an après sa mort, le Salon des Indépendants va lui rendre hommage avec 5 œuvres de la, pleine maturité.
Donc 55 Paris. J'ai dit pourquoi elle va à Paris ? Parce qu'effectivement, elle n'arrive pas. Elle est prête. Elle le dit, hein, après la Bretagne et tout ça, là, elle est prête. Son œuvre est aboutie. Elle a commencé à faire quelques expositions. Elle se sent prête à se montrer complètement. L'accueil ici n'est pas terrible. Puis en plus, ça, j'ai pas l'impression qu'on facilite son arrivée, voyez-vous. Il y a des...
Non, c'est vrai qu'à partir des années 50-55, les groupes Montpellier 7 puis Support Surface qui se sont montés tentent à la mettre à l'écart. Le groupe Montpellier 7 disait carrément pas de femmes. Donc elle se
c'était
trouve...
pas de femmes ou pas celle-là ?
Non, pas de femmes. Pas d'accord, de femmes.
C'était pas dirigé contre elle particulièrement, qui pouvait être dangereuse pour eux d'ailleurs.
Voilà, certains, Pierre Fournel m'avait dit un jour, elle leur faisait peur. Sa peinture
Pierre Fournel
était
qui faisait
trop
partie
différente
du groupe Montpellier
7. Tout à fait. Voilà, il y avait un rejet local qui faisait qu'elle n'avait pas la reconnaissance qu'elle estimait mériter. Donc elle montait à Paris et là-bas la critique était très bonne.
Donc
jusqu'à la fin.
Donc du coup, elle a trouvé des galeries pour exposer. Mm-hmm. Elle a été achetée à Paris ?
Oui, elle a été achetée à Paris, à Perpignan, à Nice, à Lyon. Les œuvres...
Et donc, le fait de participer au Salon des Indépendants, c'est aussi quand même un grand coup de pouce pour elle, une grosse reconnaissance, mais un grand coup de pouce, parce que est-ce qu'elle va arriver à vivre de sa peinture à un moment donné ?
Disons que vivre complètement, non, mais cela contribuait à l'économie familiale. Voilà, son mari d'abord, et puis après sa fille Jeannick, qui était pédiatre, complétait ce qui pouvait manquer. Donc, effectivement, il est difficile, quand on est une femme au XXe siècle, de vivre de sa peinture.
Louise Bourgeois a bien vécu quand même.
Ah, mais pourquoi Louise Bourgeois a-t-elle bien vécu ? Parce qu'elle a épousé un galériste, parce qu'elle est partie en Amérique, et parce que son art fait de souffrances, de ses souffrances vécues, et ça parle beaucoup, et ça plaît beaucoup.
Et ce n'est pas le cas de Colette Richard, qui pourtant a connu beaucoup de souffrances, ne les a jamais finalement tellement exprimées.
Au contraire.
C'est plutôt une œuvre assez joyeuse, assez heureuse, assez colorée. Là, je disais, cette année sera une année Colette Richard ou ne sera pas, tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'événements qui se sont déjà déroulés. Là, maintenant, il y a cette exposition toujours à Montpellier, avec un début de reconnaissance quand même, hein, parce que je sais qu'il y a déjà eu, il y a 2 ou 3 ans, me semble-t-il, une exposition Colette Richard à la Galerie L'Ancien Courrier chez Claire. À nouveau, il va y en avoir une toujours chez Claire sur les fleurs, le printemps, les couleurs. Et je sais que ça avait remporté un grand succès et que beaucoup d'œuvres avaient été achetées.
En effet, le virage s'est produit en 2020, quand la ville a décidé de la présenter à l'espace Bagouet. Et en même temps est sorti un film documentaire d'une pratiquement une heure réalisé par Guy Lochard et Olivier Guérin. Et ce film a rencontré beaucoup de succès. On l'a présenté un petit peu partout et chaque fois les gens sont émerveillés par la découverte de ce qu'il y a dedans. Donc il y a eu Bagouet et après il y a eu plusieurs expositions, 2 ou 3 expositions chaque année, qui effectivement, et puis des publications.
Nous avons très sorti. Gros, oui, vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années.
Oui.
Sur un catalogue raisonné, c'est ça, ça s'appelle comme...
C'est pas tout à fait le catalogue raisonné, c'est un ouvrage en 2 tomes. Le premier consacré à la femme, parce qu'elle a une vie quand même assez exceptionnelle. Sa naissance en Chine, ses amis, ses relations. La musique, qui était très importante pour elle. L'écriture, à partir de ses travaux sur Mallarmé, elle a régulièrement écrit des poèmes. Elle avait une plume remarquable. Donc c'est une femme à la personnalité très riche. Et le deuxième ouvrage est consacré à son œuvre, les expositions, les combats pour exister, et puis ceux qui ont été inspirés par son œuvre après. Il y a notamment la chorégraphe Elsa de Caudin qui a fait un magnifique spectacle à l'ENSAM en 2019, et puis un autre en 2023 à l'université Paul Valéry, en dansant les dessins de Richard.
J'allais dire, le vent pousse Richard. Hein, vers la célébrité. Donc du coup, je me disais que cette année aussi, il y allait encore, enfin cette année ou l'année prochaine, non, c'est cette année ou l'année prochaine qu'il doit y avoir quelque chose au Salon des Indépendants à nouveau.
En 2027, il vient de se passer, là je ne pouvais pas y aller cette année, oui. Mais nous la présenterons au Salon des Indépendants, effectivement, en 2027.
Oui. Donc, alors, quand vous dites présenter au Salon des Indépendants, ça veut dire quoi ? Il faut que vous montiez un dossier, il faut que l'association monte un dossier, il faut que vous proposiez des œuvres.
C'est ça, on l'a fait cette année pour le Salon d'automne, où elle avait exposé en 1950, on monte un dossier, si le dossier est accepté, on monte avec avec l'œuvre. Là, on prendra plusieurs œuvres. On nous a conseillé cette année de faire carrément un petit salon hommage. Donc, on montera avec 4 ou 5 œuvres. Pour
deux périodes différentes.
De la maturité. Parce que Richard, il y en a tellement de belles œuvres. On aura notamment l'église de Saint-Germain-des-Prés, qui est une toile absolument remarquable. On n'a pas encore choisi celle qu'on mettra avec.
Alors, quand vous dites de la maturité, vous la situez quand, vous, cette maturité ? C'est après la Bretagne ?
Entre 70 et 85, à peu près.
D'accord. Donc, voilà. Et alors, bon, il faudra rappeler que Richard meurt ici, à Montpellier, donc à la vie, à la fameuse
Absalmodie,
pas du tout à la vignette, mais qu'elle meurt en 91, et que donc depuis, cette association promeut son travail et son œuvre. Si on veut la découvrir mieux, est-ce qu'on peut vous contacter? Si on veut devenir bénévole au sein de l'association, si on veut participer finalement à la reconnaissance
cette belle aventure, voilà. Il y a déjà un site, le site richarme.fr, tout simplement, où on découvre énormément de choses. Et effectivement, sur ce site, il y a les coordonnées de l'association et on peut effectivement rejoindre cette belle aventure. Cette année, notamment avec toutes les expositions que nous avons eues, il y a plusieurs adhérents nouveaux et des gens qui s'investissent d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment une belle aventure associative.
Une œuvre longue, polyforme, avec des grandes périodes, en sachant, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, que la Bretagne est un virage particulier dans le travail de Richard, que c'est une vie de femme bien remplie, que c'est une vie de femme tout simplement. Et en vous remerciant beaucoup, Régine, d'être venue nous parler de cette artiste, de la connaissance que vous en aviez, parce que vous l'avez connue, vous avez partagé des moments avec elle, que donc vous êtes bien la bonne présidente au bon endroit. Et donc on invite tous les gens qui veulent adhérer à l'association à le faire, donner un peu de sous, ça ne fait pas de mal, venir participer au développement de cette association,
pourquoi pas. Et visiter l'atelier qui est encore vivant dans l'état où elle l'a laissé en 91.
Est-ce qu'il y a des jours où on peut aller le visiter ou...
Il faut prendre contact avec moi par le site, parce que...
D'accord, voilà. Très bien. Et puis, puisque je parle d'adhésion, vous n'hésitez pas non plus, si vous voulez adhérer à Radio FM+. Nous sommes aussi preneurs. Tout argent qui arrive, alors vous allez sur Hello Asso, vous cherchez Radio FM+, je ne sais pas, pour vous c'est comment? C'est l'association
Hello Asso aussi.
Hello Asso aussi. Donc, quand vous êtes sur Hello Asso, vous faites Richard Radio FM+, et vous aurez tout gagné. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et à très bientôt à tous. Au revoir, merci Régine.
Merci à vous.
Et à tout bientôt.
Pour nous avoir invité.
Merci à Léonie, qui était à la technique aujourd'hui, encore une fois, et qui a tenu jusqu'au bout, c'est bien, merci.
Radio FM Plus.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.